Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Bienvenue dans Radiopium, votre émission de philosophie. Nous sommes, à l'heure où vous nous écoutez, le vendredi 9 juin, 14h, l'heure de Radiopium, votre petit moment. Voilà, on va discuter, on a choisi cinéma aujourd'hui. À l'heure où se déroule le Festival de Cannes et que nous entrons dans la saison estivale, un temps qui est aussi celui des découvertes artistiques grâce aux nombreux festivals partout à travers la France, nous avons voulu vous proposer notre sélection de films pour cet été. Nous avons voulu vous proposer voilà, une discussion ouverte où on vous partage nos réflexions, plus ou moins philosophiques, sur des films qui nous ont marqués. Alors, nous ne sommes pas critiques de cinéma, mais nous voulions clôturer cette saison avec une émission où on vous partage nos coups de cœur ou nos critiques de films afin que vous appreniez aussi à nous connaître à travers nos goûts et nos réflexions sur le cinéma. Et si nos goûts sont contagieux et vous donnent envie d'aller voir ces films, alors on aura tout gagné. Alors, pour commencer les amis, je voulais vous faire réagir un petit peu à l'actualité cinématographique. Sur un peu le sujet du rapport entre le cinéma et l'engagement politique. Parce qu'il y a quand même une tribune qui a été publiée dans Télérama d'Adèle Haenel qui décide de politiser son arrêt du cinéma, je cite. Elle met surtout en cause la complaisance du cinéma à l'égard des agresseurs sexuels, mais aussi elle dénonce le fait que les préoccupations écologiques ne sont pas prises en compte non plus dans la production des films. Donc elle fait quand même un choix radical qui est de se retirer complètement du cinéma et pour être pleinement engagée dans le militantisme. Hein. Et de l'autre côté, on a, je l'oppose un peu de façon manichéenne, mais en fait c'est un peu plus nuancé que ça, mais on a aussi l'idée que... On n'est pas obligé de se retirer du monde ou de son milieu professionnel, mais qu'on peut aussi œuvrer à l'intérieur même de son milieu pour faire bouger les lignes, pour faire changer les choses. Et donc on a ce collectif CUT, qui est l'acronyme pour Cinéma Uni pour la Transition Écologique, qui s'est formé un peu autour de Cyril Dion, que certains connaissent sûrement, qui a fait une série sur Arte, dont j'essaie de trouver en direct le nom. Ouais, c'est ça, Un Monde Nouveau. Ouais, exact, merci. Donc voilà, avec l'idée que, avec une charte d'engagement et que les acteurs pourraient signer. Oui, j'ai vu dans les mesures, il y a notamment l'idée de privilégier le train sur l'avion dans les transports. En fait, grosso modo, l'idée, c'est que comme c'est le cinéma et que c'est un milieu un peu du luxe et de la démonstration, ça va un peu quand même à l'opposé des valeurs écologiques qui sont plutôt dans la sobriété, etc. Et donc, voilà, c'est un manifeste assez fort qui, j'espère, va compter pour le cinéma. Donc voilà, il y a un peu... Deux mouvements, est-ce qu'on résiste à des dynamiques fortes dans le cinéma de l'extérieur ou est-ce qu'on le modifie de l'intérieur? Donc voilà, et puis je pense que la question de l'engagement politique en cinéma avait un peu ou de la politisation des représentations avait un peu se poser tout au long de cette émission. Donc c'était une bonne clé d'entrée, je trouve. Est-ce que vous voulez réagir à ça?
Ça me choque pas, sa décision. Déjà, c'est la sienne, donc je la respecte. Et c'est un bon moyen, je trouve, pour faire réagir les gens, de marquer voilà, son coup de gueule par un départ décisif du milieu. Mais je crois qu'elle va continuer à faire du théâtre, c'est ce qu'elle a dit, peut-être elle va continuer à jouer dans certaines pièces, donc elle arrête pas complètement son métier d'avant. Mais moi, je pense que c'est un bon moyen de, en fait, de forcer les gens à réagir. Ça crée une polémique déjà. Et donc les gens doivent se placer politiquement. Dire bah, qu'est-ce que j'en pense. Et ouais, c'est intéressant de faire ça.
Oui. Et puis surtout que c'est pas la première fois qu'elle, qu'elle s'en va. La première fois, c'était au moment où Polanski a été récompensé.
Pour J'accuse.
Voilà, au César. Elle a essayé de partir, peut-être de manière temporaire une première fois. Elle s'est levée et elle s'est cassée, littéralement. Et ça n'a pas suffi. Donc je pense que c'est vraiment une décision qui a pour but d'avoir un impact important. Parce que justement, le but, c'est de choquer, de faire réagir et... on espère que ça va fonctionner, même si on a déjà vu que la première fois, ça avait eu un écho. Je ne sais pas si c'était vraiment positif. Ça avait déjà fait réagir, mais on voit toujours que le cinéma est toujours travaillé par toutes ces questions de sexisme, etc. Et d'agression sexuelle, sexité sexuelle. Donc on espère que cette fois-ci, ça aura des vraies répercussions.
Ouais, moi je me dis qu'en fait, est-ce qu'elle se condamne pas elle-même ? Est-ce qu'elle ne fait pas un peu un choix elle se sacrifie, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir Adèle Haenel dans plein d'autres films aussi. Et voilà, elle aurait pu aussi, à travers le cinéma, faire des films engagés. Elle a quand même fait 120 battements par minute. On voit l'engagement militant autour du sida dans les milieux homosexuels. Elle a fait Portrait de la jeune fille en feu, qui est révolutionnaire l'imaginaire lesbien. Elle a fait des choses incroyables. J'ai envie de croire qu'elle a fait un de ses derniers films. Je crois que c'est Les héros ne meurent jamais. Donc Adèle Haenel, si tu nous entends, j'espère que tu es une héroïne qui va continuer à...
Mais elle continue à vivre dans les films qu'elle a déjà tournés.
Oui, c'est sûr. Oui.
Et peut-être que ce qu'elle ne fait pas dans le milieu du cinéma, elle va le faire ailleurs. Et voilà, ça lui fait faire d'autres choses aussi.
Ouais. C'est sûr que c'est difficile de réformer un système quand on est toute seule. De la réformer elle seule, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr.
Enfin, bref.
Ouais, ouais.
Mais du coup, ça nous mène carrément à notre discussion au sujet du portrait de la jeune fille en feu.
Ouais, qu'on voulait en parler. Carrément, vas-y.
Parce que du coup, on voit que finalement, elle a quand même essayé de réformer certaines choses dans son engagement.
Donc, c'est quand même un film de Céline Sciamma.
C'est ça.
Donc, voilà. Avec qui.
Est-ce qu'on donne le pitch ou pas pour les
Ouais, on commence par le pitch. Allez, soyons structurés, les amis.
Donc, c'est l'histoire de Héloïse, il me semble. Héloïse, qui est une jeune femme de l'aristocratie française du XVIIIe siècle, il me semble.
Ouais.
Et donc, elle est promise à un homme qui est italien. Et avant le mariage, donc le mariage sera acté une fois que son portrait sera transmis à son futur mari. Les peintres se succèdent et essayent de la peindre en vain, car elle les fuit en permanence et car elle refuse en fait ce mariage forcé. Et donc l'histoire, c'est une peintre femme, Marianne, qui arrive dans la maison, dans la demeure de Héloïse, isolée,
interprétée donc par Adèle Haenel
et Marianne interprétée par Noémie Merlan.
Ouais.
Et donc ça va être tout l'enjeu pour Marianne, ça va être de peindre Héloïse, sauf que ses sentiments personnels vont s'entremêler avec son devoir et ça va être bien plus complexe que ça pour elle. Voilà.
Ouais, un bon pitch. Ouais, ouais. Et quelqu'un veut donner son avis sur...
Mais Marianne, je crois que tu allais dire un truc par rapport à... Non, tu voulais faire un pont entre ce qu'on disait et l'engagement politique de Adèle Haenel et ce film-là.
J'allais dire que du coup, son choix de rôle, son choix de jouer dans ce film est déjà très politique, je trouve. Parce que le film l'est par essence, dans la mesure où déjà c'est un film où il n'y a que des femmes. Et c'est très très rare au cinéma de voir pas que des femmes. Souvent les femmes déjà occupent rarement les rôles principaux dans les films. Et là finalement on a aussi un troisième rôle qui est assez important, c'est le rôle de la servante dans le film. Et donc on voit que tout le film s'articule entre ces trois personnages-là. Et donc on a la présence masculine aussi qui est symbolisée par le futur mari d'Adèle Haenel, mais donc qui est en filigrane. Il n'est pas vraiment là. Et c'est super intéressant du coup de voir que le fait de représenter des femmes à l'écran comme ça, je crois que le film dure 2 heures, donc sur un temps assez long, c'est déjà un vrai choix politique donc, de la part de Céline Sciamma. Et de la part d'Adèle Haenel d'interpréter ce genre de rôle, quoi.
Mmh. Voilà. Ouais. Mais moi, en fait, justement, j'ai vu le film une première fois et j'ai adoré. J'étais j'ai vraiment adoré. Je suis tombée sous le charme de ce film. Et après, je l'ai revu beaucoup plus récemment. Et en fait, j'avoue que j'ai été déçue parce que j'ai trouvé que c'était... comment dire ? En fait, je trouve qu'il y a des films dont on a besoin et il y a des films qui nous bousculent. Et le film du Portrait de la jeune fille en feu, c'est un film dont on avait besoin. On avait besoin de représentation d'amour lesbien, on avait besoin de voir des scènes d'avortement. Même à un moment donné, je crois que Marianne a ses menstruations dans le film, et c'est ce qu'on le voit jamais, enfin franchement, ou très rarement. Mais c'est pas un film qui nous bouscule, parce que l'histoire d'amour ne peut advenir que parce que la mère n'est pas là, que parce qu'il n'y a pas d'homme. Honnêtement, est-ce que c'est pas réaliste ? Est-ce qu'on sait bien que, en plus, au XVIIIe siècle, c'était encore pire qu'aujourd'hui, donc il y a quand même, je sais pas. Ça m'a dérangé en le revoyant, ce côté un peu lisse où on nous donne toutes les images qu'on a envie, avec, il faut le dire, hein, des très belles images. D'ailleurs, ça a été récompensé au César. Claire Maton, la chef opératrice, a été récompensée. Et c'est vrai qu'il est très pictural, en fait. C'est d'ailleurs un film qui est aussi sur la peinture. Mais en fait, voilà, il y a des scènes comme ça un peu totem où, dont on se souvient très bien, comme la scène du sabbat, hein, ou des sorcières, qui est incroyable, parce que voilà, elle revisite tout un imaginaire de la femme puissante, mais aussi de la femme exclue, parce qu'elle se retrouve la nuit en dehors des hommes, à l'extérieur de leur foyer, mais en cachette, donc c'est un geste à moitié quand même assumé. Donc ça, c'est quand même une scène qui est, je pense, la plus réussie pour moi dans le film. Mais en même temps, c'est pas un film qui me... En fait, c'est un film où j'aimerais en fait réécrire l'histoire, parce qu'elle me... Elle me semble un peu trop belle, trop lisse. Enfin.
Mais en même temps, elle est pas si belle que ça, parce que la fin montre que c'est impossible, voilà, d'actualiser cette relation lesbienne sur le long terme.
Peut-être que c'est pas représentatif de la généralité des conditions de l'époque, mais ça veut pas dire que c'est irréaliste au possible, dans toute sa dans toutes les dimensions possibles. Je veux dire, il y a forcément une part, enfin peut-être que ça aurait pu arriver, enfin, tu vois ce que je veux dire, même si c'est clairement pas, c'était rare pour une femme de se retrouver dans une maison seule.
Après, je trouve ça marrant ce que vous dites sur le fait que ce soit réaliste ou pas, parce que pour moi, ce que je trouve beau dans ce film, c'est justement qu'il a un peu un côté anachronique. Ouais, on dit que ça se passe en France, on a peut-être des toponymies, honnêtement, je me rappelle pas vraiment, mais le paysage, en fait, c'est un paysage d'une côte, j'imagine en Normandie, en Bretagne, enfin, bon, ça pourrait être en Angleterre, ça pourrait être en Irlande. Lui, il vient d'Italie. Bon, l'Italie, c'est vague aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas présent à l'écran. Je trouve que quand tu dis, il y a des films dont on a besoin, il y a des films qui nous bouleversent. Moi, je crois que c'est pas exclusif. Et notamment tout ce qu'on disait sur l'esthétique. Moi, esthétiquement, c'est un film qui me bouleverse. Et je pense que, en effet, il y a un caractère pictural et il y a aussi un caractère de tableau. Parce qu'en effet, c'est un film où on peut dire, je retiens telle scène, telle scène, telle scène. Ce qui arrive pas tout le temps. Souvent, on a une narration, etc. Là, l'histoire, au fond. Déjà, on le sait, c'est évident dès le début, on sait que c'est un huis clos, et soit il va rien se passer, soit il va se passer quelque chose. Là, le paradoxe, c'est qu'il se passe quelque chose sans qu'il se passe rien derrière. Mais, et même la fin, sans la spoiler, elle est belle, elle est douloureuse, mais elle est belle.
Ouais.
Et c'est-à-dire que elle est bouleversante, et elle est rendue aussi par un esthétisme, et notamment la scène de fin est un vrai tableau, où on a une puissance de jeu, qui pour moi en tout cas dépasse l'aspect politique. C'est-à-dire que je crois le paradoxe d'Adèle Haenel, c'est que renoncer à être comédienne, renoncer à être actrice, c'est aussi se défaire de ce qui n'est pas politique dans son métier d'actrice. Qu'une actrice peut par ailleurs être politique, peut faire des films politiques, un artiste en général. Mais il y a quelque chose, après c'est peut-être une idéologie de croire ça, mais dans l'art, il y a quelque chose qui, pour moi, est radicalement antipolitique. Il y a qui est au-delà de la politique. C'est-à-dire une performance artistique. La Joconde, c'est pas politique. une symphonie de Bach, c'est pas politique. Et même dans un texte politique, même dans un film qui se veut politique, on a des moments comme ça qui flottent au-dessus où on n'a pas cet aspect politique. Et pour revenir à des discussions, peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que je ne veux plus être celle qui ne fait pas que de ma vie un engagement. Et dans voilà, ces scènes d'acting, à la fin, voilà, on a une femme qui ne dit pas un mot pendant 7 minutes et qui pourtant nous fait passer plus de sentiments que si jamais elle avait fait un discours sur l'amour ou sur l'impossibilité d'aimer quelqu'un qu'on aime. Et du coup, je le trouve bouleversant, mais je comprends aussi pourquoi peut-être Adèle Haenel veut se défaire de ça.
C'est vrai qu'en fait, après, c'est peut-être aussi une affaire de goût, simplement, sur le film. C'est-à-dire que c'est vrai que je rejoins ce que tu dis sur le fait que c'est un film tableau. Mais c'est vrai que moi, il m'a manqué une intrigue forte, parce que peut-être que c'est ce que moi, je cherche au cinéma. Et par exemple, j'ai l'impression que chaque personnage a un peu un récit en puissance. La servante, pourquoi est-ce qu'elle avorte? On ne sait pas quelle histoire il y a eu derrière. Héloïse, on sait qu'elle sort du couvent, mais on ne sait pas beaucoup plus. Et elle a une sœur quand même qui s'est suicidée parce qu'elle voulait échapper déjà à un mari. Donc c'est quand même quelque chose de très intriguant. Quelque chose de l'ordre aussi un peu de en fait... J'ai l'impression que le film aurait pu prendre le parti du genre du thriller ou de l'horreur avec ses visions de Marianne qui... d'Héloïse. D'Héloïse qui apparaît de temps en temps comme un fantôme blanc, comme ça. Et j'ai adoré cette esthétique et ce côté un peu roman gothique anglais du 18e siècle. Et je trouve qu'il y avait un truc à... Enfin, comme si... Il y avait une voix qui était simplement... Enfin, qui n'avait pas été assumée jusqu'au bout, je ne sais pas. Oui, enfin, voilà. Je trouve que les personnages manquent d'épaisseur. Et que, voilà, c'est vraiment un portrait. C'est une esthétique qui est très belle, c'est vrai. Mais, justement, si on veut des femmes puissantes, mais racontons leur histoire jusqu'au bout, dans toute leur épaisseur psychologique... Bon, après, voilà, c'est aussi mon goût personnel pour des intrigues, fortes, quoi. Là, il y en a... Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y en a... Enfin, il n'y en a pas pour moi.
Moi, j'allais dire plutôt... je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est la simplicité de certains dialogues. On va dire que ça laisse beaucoup place aussi au mystère, et c'est ça qui est super intéressant. Moi, la première fois que j'ai vu ce film... Ça m'a fait penser à un roman. J'ai l'impression de voir un roman. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en fait, justement, dans cette esthétique un peu qui fait penser à... Ouais, picturale, qui fait penser aussi parfois à des tableaux un peu figés. En même temps, il y a ce truc de... Moi, je me rappelle vraiment... Je sais pas pourquoi je me rappelle de cette image-là en particulier. Au tout début, quand elle arrive, elle pose ses bagages. Marianne pose ses bagages. Et elle ouvre sa malle de peintre avec ses toiles, etc. Et je me rappelle d'un long plan sur ses mains, etc., qui ouvre la... ses bagages, etc.
Ouais, et même ça s'ouvre sur une main qui fait des croquis, je crois.
Peut-être, ouais. Ouais, probablement. Et en fait, juste le fait de s'attarder sur ces détails-là, moi, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, j'ai l'impression de voir un roman dans le sens où j'imagine un romancier décrire ces détails-là. Et du coup, pour moi, quand tu lis un roman, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Et je trouve que ce film, y a aussi cet aspect-là. Justement, on ne nous impose pas trop de choses. L'image ne nous impose pas une certaine manière de penser. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous laisse quand même... Ça laisse place à la spéculation, mais à l'imagination. Et je trouve ça super intéressant, ouais. Justement.
Bah, c'est ce que tu disais en off tout à l'heure, Gabriel. Le show dentelle, c'est ça. Ça nous montre... en l'occurrence, tu disais ça à propos de la scène de l'avortement. Et ça ne porte pas de jugement. Enfin, la réalisatrice ne porte aucun jugement sur ce qui est en train de se passer, c'est vraiment simplement, voilà. Après, on est face à une expérience aussi sensorielle, tout simplement. Et en l'occurrence, bon, la scène d'avortement, est montrée sous le prisme de la douleur physique. Et au contraire, les scènes plus charnelles entre Héloïse et Marianne, elles sont aussi très très sensorielles, très 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 belles. Et c'est un nouvel esthétisme, une nouvelle esthétique, pardon, des scènes de sexe qui est quand même assez remarquable, quoi. Au cinéma, je pense que un des films qui a contribué aussi à mettre en valeur, enfin qui a représenté l'amour lesbien au cinéma, c'est quand même Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle. On part sur une toute autre représentation, beaucoup plus caricaturale, beaucoup plus violente aussi, en fait, dans les relations, elles sont beaucoup plus violentes. Et alors que là, c'est aussi un contre-pied à ça et montrer une forme de souhait, de simplicité et de beauté aussi. De proposer une autre esthétique. C'est vrai que c'est une des très belles réussites, je trouve, de ce film.
Et en même temps, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait des films dont on avait besoin. Et La vie d'Adèle, justement, pour moi, c'est un film dont on avait besoin. Peut-être même plus que Portrait de la jeune fille en feu, dans un sens. Pas dans la mesure où... Je dirais que le Portrait de la jeune fille en feu m'a beaucoup plus marqué et bouleversé, justement. Mais La vie d'Adèle, ça marque tellement un tournant dans la manière dont on représente les femmes et la manière dont on représente les relations lesbiennes, que c'était nécessaire, en fait, et ça devait arriver à ce moment-là. Et peut-être que ça devait exister, justement, pour qu'on puisse prendre le contre-pied, ensuite, de ça.
C'était une étape.
Exactement. Ouais. Et donc, finalement... je pense que c'est un autre type de représentation, mais du coup qui est peut-être plus teinté du regard masculin, mais qui est aussi qui était nécessaire, en tout cas, et important.
Ouais. Et ben les amis, est-ce qu'on a fait le tour de Portrait de la jeune fille?
Je crois que là on a bien parlé.
De Chihiro, c'est l'histoire d'une petite fille qui déménage Et on la voit au départ, elle est dans la voiture de ses parents, avec ses deux parents. Et elle n'est pas contente de changer d'école, elle perd ses amis. Et la famille s'arrête, tombe sur un espèce de drôle de monument avec un tunnel. La famille entre dans ce tunnel. Et là, il y a une sorte de plaine assez jolie. Et je crois que la famille tombe sur une espèce de parc d'attractions, un espace en tout cas avec personne, sauf une sorte de banquet plein de nourriture qui a l'air, ma foi, succulente. Et les parents se précipitent dessus. La petite fille reste méfiante et va se balader un peu dans la zone abandonnée. Et là se passe toute une histoire un peu, folle, avec des monstres, des fantômes, des divinités. Et les parents, en fait, se transforment même en cochons à force de manger.
Ouais, c'est une scène qui nous a beaucoup marqué, qui a marqué plein d'enfants.
Ça m'a traumatisée. J'ai fait des cauchemars à cause de ça.
Ouais, même après, tout au long du film, il y a des figures tout à fait monstrueuses. Et ouais, on en est plein dans le fantastique. Mmh. Alors, c'est un souvenir, mais il me semble qu'au tout début du film... donc voilà, ils font ce voyage.
Je te laisse enchaîner.
Et oui. Elle tombe un peu sur une stèle un peu mortuaire, je crois. Et donc c'est aussi, je crois que c'est le film, le titre japonais, c'est il y a l'idée que c'est Chihiro au pays des morts, je crois. Enfin, en tout cas, il y a un lien avec. Le pays des morts ou je sais pas quoi, l'au-delà.
Fait référence en fait à un concept japonais qui explique la disparition mystérieuse d'un être, et en fait cette disparition elle est provoquée par les divinités,
oui, parce qu'elle perd quand même ses parents, elle les perd de vue, donc il y a quand même ces disparitions inquiétantes, et à un moment donné elle doit pas aussi secourir un ami dans un pays, dans une autre région de ce pays fantastique.
Si, à un moment, elle a un ami, je sais plus, c'est quoi son petit nom, personnage, c'était... Ah bon, ça nous reviendra. Et oui, en fait, son ami qui est en même temps dragon,
il a une forme animale. Je vois que c'est peut-être Haku.
Oui, Haku, je crois que c'est lui. Et il va pas bien. Et elle aide ce personnage à... Je sais plus trop pourquoi il va pas bien, mais il y a un truc lié au nom, il a perdu son prénom. Et un de ses buts, c'est de retrouver son prénom, et elle aide à se remémorer son prénom. Mais ça met en valeur l'amitié, et le travail aussi. Il y a toute une réflexion sur le travail avec la sorcière qui, un peu, c'est ce qui a été dit dans l'émission de Adèle Vanrette, quand la petite fille elle signe le contrat pour travailler dans ce royaume de monstres, et en fait son prénom est changé, et elle se souvient plus, elle perd la possession de son prénom, et c'est un peu la métaphore de l'aliénation, quoi, du travail. Tu perds quelque chose en fait quand tu signes un contrat, tu perds quelque chose qui t'est propre et peut-être ta personne.
Ouais. Et il y a aussi, toi et moi, je crois qu'on a vu Le Vent se lève, dernier film de Miyazaki.
Le dernier, mais je crois qu'en fait, actuellement, il y en a un en préparation. Il a dit que ce serait son dernier. Et j'ai regardé sa page Wikipédia et apparemment...
C'était un coup de pub. Alerte, c'était d'une fausse alerte. C'était un effet dramatique.
Oui. Et Le Vent se lève, t'en as pensé quoi, toi?
Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film le plus... Alors, je l'ai vu il y a assez longtemps, donc je peux pas en faire le pitch, mais je sais que c'est un film qui est vraiment autobiographique, enfin très largement inspiré de la vie de Miyazaki. Donc, c'est beau parce qu'on peut s'amuser un peu à faire des liens avec ces films, avec des thèmes qu'on a vus dans ces films. Il y a aussi, si on a aimé Porco Rosso et cet aviateur cochon, là on retrouve ces très belles, ces très beaux dessins d'aviation.
Et ces cochons.
et voilà, et toute sur la partie, il y a toute partie ingénierie un peu. On les voit concevoir les avions. Il y a un peu une mise en abîme de la conception des films et de la patience, de la minutie, de ce côté un peu artisanal qui tend vers la tradition. Oui, enfin c'est un très 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 beau film aussi sur. Me semble les relations familiales et tout, donc
mais aussi à la technologie, j'ai l'impression.
Ouais, à la technologie, il y a vraiment une ligne de force, je trouve, sur la technologie. Ouais,
vraiment la complexité aussi du rapport de l'humain à la technologie, dans le sens où il est très lucide, Miyazaki, des méfaits que peuvent apporter l'aviation, et il le montre dans Le Vent se lève, des désastres que cause l'ingénierie et l'aviation.
Oui, il n'y a pas des scènes sur la guerre froide.
Il y a des scènes de guerre, clairement. Mais en même temps, il y a des moments aussi très jolis et que tu retrouves dans Porco Rosso. Je me souviens de cet avion qui monte dans les cieux, un peu mystique, un peu divin.
Oui, il y a aussi, complètement.
Il y a à la fois un côté un peu esthétique, jolie, magique, on a créé ces espèces d'engins qui nous permettent de monter dans les cieux, c'est beau, mais en même temps, c'est des armes de guerre. Donc, il est très lucide sur ce plan-là et c'est assez intéressant.
Ouais, il tient les deux à la fois, la poésie de l'avion et puis en même temps, toujours la conscience que des dangers de la technologie, parce que les avions, c'est aussi des armes de guerre, bien sûr, et je pense que là, il y a un lien évident avec ce mot qui vient même du japonais, hein, les kamikazes, ces avions ces aviateurs qui perdent la vie en même temps que leurs avions explosent et qui deviennent des vraies armes de guerre qui ont été utilisées dans l'histoire du Japon. Donc c'est vrai que c'est un très beau film qui tient les deux à la fois, la poésie et le côté plus critique sur les dangers potentiels de la technologie. Donc, tant mieux si c'est pas le dernier. Ça me réjouit. Est-ce qu'on enchaîne sur La Grande des BSA?
Ouais.
Donc, Gabriel, pour le pitch de La Grande des BSA.
Si. Donc La Grande des BSA, c'est un film qui est sorti en 2013, qui a été présenté à Cannes. C'est le sixième long métrage du réalisateur italien Paolo Sorrentino. Et dans ce film, pour reboucler avec ce qu'on disait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de résolution.
Je vais pas aller, alors.
Non, il n'y a pas de progression. Il y a une forme de narration, il y a une voix intérieure. C'est celle du personnage de Jep Gambardella, qui est incarné par Tony Servillo, qui est un peu la muse de Sorrentino. Donc ce Jep Gambardella a la soixantaine, il erre dans une Rome pleine de chaleur, de paresse. Il est devenu journaliste après avoir écrit un roman de jeunesse qui a été un succès, mais qui a été son seul roman jusqu'à présent. Donc on a un homme qui est un peu désabusé, qui fréquente avec nonchalance les sociétés mondaines de Rome, où se côtoient le baroque, le burlesque, l'absurde. Et il n'y a pas de voyage de héros, c'est un chemin qui mène nulle part. Peut-être, malgré tout, un voyage qui va à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, Sorrentino, il choisit d'ouvrir son film par un passage du Voyage au bout de la nuit de Céline. Et cette phrase, c'est « Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, et voilà sa force. » Et moi, ce que je trouve très beau dans ce film de Sorrentino, c'est qu'il mêle le cynisme de cette société qu'il peint et l'espérance secrète qui pourrait amener, à l'air de rien, Jep Gambardella, à retrouver cette beauté sensible, dépouillée des vanités, des artifices dans laquelle il ne croyait plus, et qui pourrait l'amener à renouer avec son art, avec la vérité. Et en tant que tel, je trouve très beau d'une part, parce que esthétiquement, il est sublime. Il y a plein de scènes qui montent tout le quotidien, des bonnes sœurs qui jouent quelque part, un type qui balade son chien. Il y a des tableaux, encore une fois, très, très, très féroces de la société mondaine italienne. Et on a ce type qui ne sait pas vraiment ce qu'il fout là.
Il est situé, ce film, en Italie?
Oui, il est sorti en 2013.
Non, dans une certaine ville, parce que je pense à des villes un peu mythiques.
Il est à Rome.
Il est à Rome, ok.
Il est à Rome, complètement. Mm. Il est à Rome et Je ne sais pas ce que toi, Tibor, t'en as pensé avec un œil neuf, parce que moi, je l'avais regardé à l'époque, et il m'avait beaucoup marqué. Mais,
Alors, ben, moi, j'ai bien aimé à la fois cette réflexion de l'écrivain qui a la soixantaine et qui se demande, voilà, comme tu disais, qu'est-ce que je fous là, sachant qu'il n'a pas écrit de roman depuis très longtemps. Enfin, il a écrit un seul roman et c'est ce qu'il a fait connaître et il vit de ça, quoi, je crois. Et en même temps, il se perd aussi dans ses soirées mondaines. Tu sens cette recherche aussi dans ces soirées-là, même s'il y a des moments où il est peut-être un peu plus... il se questionne moins, mais j'ai l'impression qu'il y a une perte un peu dans cette... une vanité peut-être, mais une perte dans cette mondanité. J'aimais bien...
Et je pense qu'il y a aussi le discours de la vulnérabilité d'un homme qui a pu croire fut un temps que lui n'appartiendrait pas à ce monde-là. Enfin, ce film a beaucoup fait penser à Proust en général, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un moment, la mort du fils d'un ami de Jep Gambardella qui se suicide et qui était obsédé par Proust en ce moment. Et cette démarche de l'écrivain qui dit « Ok, moi je suis pas de cette race-là, je vais dans ces milieux mondains, mais moi j'observe, moi j'écris, moi je suis un être sensible », sauf qu'en fait, il le fait pas. Et il a réussi à tromper son cynisme en se faisant lui-même la représentation de cette mondanité sans y croire. Il y a cette scène de l'enterrement où il rencontre une jeune femme et il l'aide à choisir une robe pour aller à un enterrement. Il prépare à l'avance un enterrement et il annonce à quelques heures tout ce qui va se passer, toutes les démarches qu'il va faire, tous les mots qu'il va glisser à l'oreille des proches du défunt. Et cette comédie humaine au sens large, dans lesquelles il excelle, en fait, ne le satisfait plus. Et j'aime beaucoup cette quête d'une désillusion qui est en fait une manière de renouer avec l'espérance. C'est-à-dire que parce qu'on a écumé tous les possibles du désespoir, en fait, on retombe sur quelque chose qui tient lieu d'espérance.
He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
Et moi, je voulais vous partager un coup de cœur du cinéma indien, parce que c'est vrai qu'il n'est pas connu en France. Autant le cinéma asiatique, on connaît assez bien le cinéma japonais, le cinéma coréen, mais le cinéma indien, non. Et je pense que c'est bien dommage, parce que il y a des très belles, des très très belles créations. Donc j'aimerais bien que les films indiens sortent un peu de cette ère géographique-là, et si possible de faire connaître un peu ce cinéma, en vous parlant du film Darlings, qui, alors justement là, est sur Netflix, donc c'est aussi la preuve que Netflix tente de séduire le marché indien. Donc d'une réalisatrice qui s'appelle Jasmeet Kirin, et il est sorti il y a un an, en août 2022, à peu près un an. Donc bon, je le dis d'emblée, moi j'ai une partie de ma famille qui est en Inde, donc ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est voilà, c'est ces scènes de la vie quotidienne que voilà que j'ai vues, enfin qui me rappellent aussi de très très bons souvenirs, des bruits de cuisine. La cuisine est très importante en Inde, elle est de toutes les discussions. Comment t'as fait ton curry? Comment t'as fait ceci? Comment t'as fait cela? On se partage les bonnes recettes. Et donc c'est un film qui pour moi traite d'une thématique féministe sans que ce soit le sujet. Et c'est ça que je trouve très très beau, parce qu'il résiste tout du long à l'écueil de la simplification et de la caricature. Il n'y a rien de caricatural. Elle arrive même, la réalisatrice, à mettre de la comédie dans ces rapports-là. Et c'est ça que je trouve, mais en fait l'équilibre est parfaitement tenu. C'est pas l'homme est méchant et la femme est une blanche colombe. On n'est pas du tout là-dedans. Et en fait, ce qui est très très fort, mais ça, peut-être qu'il faut avoir vu des films Bollywood avant pour le comprendre, mais peut-être regarder une bande-annonce d'un film Bollywood classique et vous comprendrez combien ce film il est intelligent. Parce qu'en fait, il joue d'emblée avec les codes du film romantique. Donc, j'étais avec ma mère, je me suis dit, allez, on va encore se voir la même intrigue de non, je résiste, ah non, finalement, je tombe dans ses bras, et non. Mais les toutes premières minutes jouent cette carte-là. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, nos attendus sont trompés. Et qu'on est à chaque fois que le film prend un tournant. On attend un mécanisme attendu. On attend qu'il y ait un moment donné où... en fait, donc, je ne crois pas l'avoir dit, en fait. J'ai peut-être parlé comme du pitch un petit peu. Donc, c'est l'histoire de Badrou qui tombe sous le charme de Hamza. Et donc, ils se mettent en couple, ils vivent ensemble, etc. Et puis, très vite, la Badrou, donc la jeune femme, aspire à une vie meilleure, à vivre dans des meilleures conditions, à vivre dans un plus grand appartement, etc. Et puis Hamza, qui est un employé dans la police, je crois, ou dans les chemins de fer, je ne sais plus trop, mais ne peut pas lui donner ces conditions matérielles-là de vie. Et puis il se révèle très vite violent avec elle, envers elle. On est tous en attente, un peu, c'est un genre en soi en fait, hein, de film, le rape and revenge. Donc c'est un genre en soi, et on se demande mais à quel moment est-ce que le tournant va s'opérer. Et pour avoir écouté des témoignages de femmes victimes de violences conjugales, en fait souvent le tournant c'est quand la violence va s'opérer à l'égard des enfants. Donc je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Et le tournant de la non-acceptation de la violence, c'est celui-là. Et donc oui, donc à chaque fois, il y a un mécanisme. Et donc, voilà, c'est aussi prendre le contre-pied des films Bollywood, où c'est souvent l'homme, en fait, qui est un héros qui va survivre, qui est indestructible, qui va abattre les obstacles les uns après les autres. Et là, on a une sorte de duo très, très comique entre la mère et sa fille qui peuvent communiquer simplement par des mimiques. C'est extrêmement drôle. On se demande comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Et voilà, c'est vraiment tourné sur le mode du thriller. Il y a un suspense, mais jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, si vous aimez les des films à intrigue, avec une épaisseur psychologique qui est vraiment très fouillée, vous allez adorer ce film qui s'appelle Darlings. Donc voilà, qui dit tout le... toute la galanterie d'un mari à l'égard de sa fille, en même temps le S de Darlings qui dit mais enfin qui en fait c'est normalement ça se on dit darling et pas darlings, et là ça montre un peu voilà que c'est aussi une langue qui va peu à peu se déformer de la galanterie à un langage beaucoup plus violent. Voilà, et qui dénote le petit caillou dans la chaussure, et l'incident qui va un peu tout faire tomber. Et voilà, le propos n'est jamais moralisateur, et surtout, il y a une subversion des codes du film Bollywood classique d'amour, avec des chansons romantiques qui interviennent à des moments absolument incongrus, qui provoquent des effets comiques très très drôles, une forme d'ironie très très puissante. Donc voilà, donc je vous incite, ça peut être une très bonne porte d'entrée au cinéma indien. Enfin, en tout cas, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir ce film, donc Darlings, sur Netflix, de Jasmith K. Rean. Et le casting est incroyable, ils jouent tous très très bien. Voilà. Bah écoutez, je crois que là, nos auditeurs ont beaucoup de films à regarder, enfin beaucoup d'idées, plein de pistes. Donc si je récapitule, on a commencé par Portrait de la jeune fille en feu, ensuite on a parlé de Chihiro, de Le vent se lève, La grande des Bellezza, Darlings, est-ce que j'en ai oublié?
Non, je crois que,
c'est bon.
Le compte est bon. Donc voilà, donc vous repartez, on l'espère, avec plein de recommandations, enfin plein d'idées de films pour cet été. On vous remercie de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Invisible mais bien réel, corporel mais non moins spirituel. Et si vous voulez voir des films et y réfléchir après les avoir vus, alors que vous êtes encore sous le choc de la faim, que vos yeux se réhabituent à la lumière, que vous sortez à peine de la caverne de Platon, eh bien sachez qu'Opium Philosophie ne s'est pas seulement doté d'une radio, mais aussi d'un ciné-club, les Synesthésies, qui vous propose de voir ou de revoir des films. Cette année, c'était plutôt sur la thématique de l'accident, qui était donc à l'honneur. Et le dernier en date, pour vous donner envie d'aller voir leur prochaine projection, le dernier en date, c'était Mulholland Drive, de David Lynch, qui est sorti, enfin qu'ils ont projeté le 6 juin. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous retrouver dans les podcasts de Radio Campus Paris et sur nos réseaux sociaux, notre Instagram opium@philosophie et Facebook, YouTube avec la chaîne de Opium TV. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur notre adresse mail opium.radiopium@gmail.com, et en attendant, on vous souhaite un excellent été. We'll be right back.
Thank you.